Bonjour Eric Serra.
Bonjour.
C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir parce que c'est la première fois, cela fait 21 ans que je fais de la radio et c'est la première fois, c'est incroyable, que je vous rencontre. Donc bienvenue chez Nostalgie.
Merci beaucoup.
Et ça va être un grand événement ici à Bruxelles. Notez bien cette date, c'est le 31 mars 2020 au Palais 12. Il y aura du monde et le spectacle va être à la hauteur puisque l'on va assister à un ciné-concert du Grand Bleu. Alors une question candide pour commencer, c'est quoi un ciné-concert ?
Alors un ciné-concert, c'est donc on a pris le film, on a enlevé la bande de, on a enlevé la musique du film et on vous diffuse le film dans une version restaurée en plus, donc avec une qualité d'image qu'on n'a jamais vue pour l'instant, avec les dialogues et tout ce qu'il faut. Et au pied de l'écran, je suis là avec un groupe et on joue la musique du film en direct, note pour note comme l'original, avec les sons d'origine et synchronisé à l'image près parfaitement comme dans le film.
Le volume sonore en plus.
Oui, voilà. Puis, l'émotion du live en plus.
C'est de l'opéra finalement, quelque part.
Un petit peu, oui.
Parce qu'on a, c'est le spectacle total avec la musique en live. C'est un gros boulot, ça, non ?
Oui. Alors, pour arriver à faire ça, effectivement, notamment d'être synchronisé parfaitement à l'image près, je dois avouer que c'était un vrai challenge dont je ne me rendais pas compte d'ailleurs quand j'ai accepté.
Ça va créer du stress.
Sinon, j'aurais peut-être pas accepté.
Il y a déjà des représentations qui ont lieu ?
Alors, pour l'instant, on en a fait deux à Paris l'année dernière, en fait, pour les 30 ans du Grand Bleu. Et c'est suite au succès de ces deux représentations qu'on a donc décidé de faire cette tournée.
Ouais. Oui.
Et c'est effectivement beaucoup de stress parce que c'est assez compliqué quand même techniquement. Et puis surtout, parce qu'on est à la... Enfin, ce qu'on ne voit pas quand on est au spectacle, c'est que derrière l'écran, c'est la NASA, un peu, pour arriver à faire tout ça. Et du coup, on n'est jamais à l'abri d'un bug ou d'une panne. Et ça, c'est stressant. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce qui se passe si jamais quelque chose tombe en panne ? C'est-à-dire, tout s'arrête, quoi.
Oui.
C'est pas comme un concert où on se rattrape toujours. On va dire une blague ou on va improviser. Enfin, bref, on se rattrape. Là, on ne peut pas se rattraper. C'est-à-dire que s'il y a la moindre erreur, tout s'écroule.
Et donc du trac.
Donc ça crée un gros stress. Ouais.
Et c'est beaucoup plus, parce que c'est vrai qu'il y a les films de Star Wars qui sont diffusés pour le moment avec un orchestre symphonique, mais il y a un affect, alors c'est pas une découverte, il y a un affect tout particulier pour cette musique qui est générationnelle. Je peux très bien en parler, puisque moi j'avais la vingtaine quand Subway est sorti. Et on était là, c'est 4 ans, je crois, avant le Grand Bleu, on était là dans la salle. D'abord, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Et c'est prodigieux. Et puis, il y avait cette musique. Et cette musique, c'était vous. Donc, c'est vraiment un duo incroyable, Besson-Serra, qui s'est d'ailleurs prolongé sur un nombre incalculable de films. Il y avait autant d'affect pour la musique que pour le film. Mmh. Et sur le Grand Bleu, ça a été décuplé. Je pense que lors de votre tournée promo, je ne sais pas combien d'animateurs vont lancer la fameuse note du Grand Bleu juste avant de vous introduire. C'est ouais. Culte.
Ouais, oui, j'ai eu cette chance, oui, effectivement. Puis là le ciné-concert, je précise, c'est une triple première mondiale parce que c'est la première fois que ce n'est pas un film américain, parce que tous les ciné-concerts jusqu'à maintenant, ça n'a été fait que sur des films américains. Deuxièmement, ça n'a été fait que avec un orchestre symphonique, alors que là, c'est pas un orchestre symphonique. Là, j'ai monté un groupe spécifique pour jouer cette musique à l'identique, donc c'est un peu l'ancêtre de l'électro, hein, la musique du Grand Bleu. Et exclusivité, c'est que c'est la première fois que c'est le compositeur lui-même qui est sur scène, puisque d'habitude, c'est un orchestre symphonique avec un mec qui dirige et puis le compositeur n'est pas là. Là, moi, je suis là, je joue.
Comment vous avez vécu ça, le succès du Grand Bleu et en même temps le succès du disque, puisque je vous le disais hors antenne tout à l'heure, je me souviens très bien que chez Virgin, votre firme de disque, il disait qu'en Belgique, il s'est vendu autant de BO du Grand Bleu que de Thriller de Michael Jackson. Vous avez vécu ça comment ?
Ah ben bien. Je me souviens effectivement, parce que oui, il s'est passé un peu la même chose dans beaucoup de pays, et notamment en France, je me souviens quand le film était sorti donc au début mai pour Cannes, et en juillet, j'étais en vacances chez un copain sur la Côte d'Azur, et un jour, je me souviens, le patron de Virgin France m'appelle et me dit « Tu viens de rentrer numéro 9 au Top Album ». À l'époque, il y avait ce Top Album qui était un classement hebdomadaire des ventes de disques en France. Et alors donc déjà, pour moi, j'étais super heureux et flatté d'être entré. Parce que le Top Album, c'était sérieux en plus. Hein, notamment les trois premiers, je me souviens, à cette époque-là, c'était justement Michael Jackson, Sting. Il y avait Sting avec son premier album solo et Johnny Clegg. Et ça faisait 6 mois qu'ils étaient tous les trois, ils squattaient les trois premières places. Or, chaque semaine, des fois, ça changeait entre les trois. Le 2 devenait numéro 1 et le 3 devenait numéro 2. Enfin bon, mais c'était toujours eux trois, les trois premiers. Et bon, ça a duré comme ça. Et la semaine suivante, donc, le patron de la maison de disques me rappelle, me dit « t'es numéro 4 ». Donc j'étais juste derrière eux. Et la semaine suivante, j'étais numéro 1. C'est-à-dire que j'avais détrôné ces trois qui ne décollaient pas de ces trois premières places depuis des mois. Et ensuite, l'album du Grand Bleu est resté numéro 1 pendant 6 mois. Et donc, j'étais évidemment extrêmement fier, comblé. Et puis, évidemment, ça a changé ma vie parce que après, ça change tout.
Oui. Et en même temps, comme diraient certains, c'est bonnard parce que vous êtes à l'abri des inconvénients de la célébrité. Quand on est compositeur de musique de film et qu'on n'est pas chanteur sur le devant de la scène et qu'on ne doit pas être non-stop devant les objectifs des paparazzi.
Oui. Enfin, j'étais un petit peu chanteur quand même, puisque je chantais le générique de fin, la chanson My Lady Blue. Mais effectivement, oui, j'avais pas ce côté. J'étais pas un chanteur de variété.
L'armada du showbiz.
Donc, moi, j'avais que effectivement les avantages. C'est-à-dire que les gens qui me reconnaissaient, c'était toujours extrêmement sympathique et bienveillant. Je sentais que de l'amour, quoi. Il y avait jamais de trucs bizarres, quoi.
Ouais.
Mais je pense que ça, vous savez, c'est le cas de tous les gens qui sont sincères et qui font les choses. J'ai la chance d'être un peu copain avec des gens comme Sting ou Peter Gabriel. Malgré leur notoriété qui est immense, qui est nettement supérieure à la mienne, ils sont jamais emmerdés non plus par le public parce que il y a un respect. Donc quand les gens les reconnaissent, c'est toujours très respectueux et très sympa, quoi.
Oui.
Ceux qui ont des problèmes avec ça,
c'est à cause de l'image qu'ils envoient.
Parce que effectivement, je sais pas moi, quand on n'est pas connu pour des bonnes raisons, évidemment, on va pas forcément attirer des choses positives.
Oui. Vous avez vraiment été générationnel, parce que je me souviens qu'en 2003, c'est son album qui a eu le plus de succès, Vincent Delerme, il vous fait quand même citer par les filles de 1973, ça a été un tube, hein, celle qui disait à l'âge de 15 ans, Eric Serra. Tout simplement, il dit rien d'autre, c'est celle qui disait Eric Serra. Vous connaissez la chanson ?
Oui, bien sûr.
Mais on l'écoute alors.
Celle qui mettait des bandanas et des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 73 ans, 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ans, 30 ans, la 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 la.
Eric Serra, il y a une question que je ne peux pas contourner, c'est: comment est-ce que vous avez commencé à travailler avec Besson ? C'est bien avant Le Grand Bleu.
Oui, En fait, on s'est rencontrés dans un studio d'enregistrement avec Luc, dans lequel moi j'enregistrais. À l'époque, j'étais musicien, instrumentiste, et j'enregistrais les guitares pour un chanteur qui s'appelle Pierre Jolivet, que vous connaissez sûrement comme cinéaste, qui à l'époque était comédien, et il avait décidé de faire un album comme ça. Il avait une envie de faire un album, et j'ai fait tous les solos de guitare de cet album. En improvisant et Luc était à l'époque en train d'écrire avec lui, ils étaient en train d'écrire ce qui allait devenir plus tard le premier film de Luc, et donc Luc m'a vu jouer comme ça et il m'a vu improviser, et pour lui ça voulait dire que j'étais compositeur, ce qui n'est pas forcément vrai, hein. Mais je connais des improvisateurs de génie qui sont absolument nuls en composition. Et inversement, donc ça n'a pas forcément de rapport, mais pour Luc qui n'était pas musicien, c'était la même chose. Du coup, quelques mois plus tard, parce que ça c'était, on avait 18 ans à peu près, et Luc à l'époque n'avait encore rien fait, il avait été assistant sur un ou deux films, moi j'étais déjà musicien professionnel, mais enfin depuis un an à peu près, et quelques mois plus tard, Luc a fait son premier court-métrage, et il m'a demandé de composer la musique de son court-métrage. Et puis ensuite, il m'a redemandé pour un an ou deux plus tard pour son premier long métrage, et puis, oui, etc. Oui. Et puis voilà.
Et puis après un succès pareil, il était inenvisageable de ne plus travailler ensemble.
Oui, enfin, c'est-à-dire que pour lui, je pense que à partir du moment où il obtient ce qu'il a envie d'obtenir musicalement, et moi, il me donne un rôle magnifique dans ses films. Donc, je ne vois pas trop de raison, effectivement, d'arrêter.
Est-ce qu'il est comme les autres, ou comme beaucoup de réalisateurs, parce qu'il est aussi le producteur, souvent les compositeurs de musique de film, et vous avez dû probablement le vivre, peut-être avec un James Bond, que vous avez aussi composé, non, vous avez aussi composé la musique de film avec McTiernan. Ennio Morricone dit toujours, on est le parent pauvre du cinéma, parce que bien souvent, on ne nous laisse que quelques jours pour tout composer et enregistrer. John Williams le dit aussi. Ouais. Ça vous est arrivé aussi ?
Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, la musique, c'est en général... C'est souvent la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que les réalisateurs y pensent au dernier moment, puisqu'ils n'en ont pas forcément besoin avant. Donc, très souvent, on est le dernier à intervenir, le dernier à être appelé. Et du coup, on a la pression qui va avec, parce qu'il y a des dates de sortie, des dates de mixage du film, etc., qu'on est obligé de respecter. Alors, moi, j'ai eu la chance, au début, en tout cas, tout le début de ma carrière, ça ne m'arrivait pas tellement, parce que Luc, en même temps, on avait démarré ensemble, on était devenus amis, c'était mon meilleur ami, j'étais son meilleur ami. Du coup, en général, j'étais le premier à être au courant du prochain film. Donc, mine de rien, même si je travaillais pas dessus parce que j'attendais d'avoir les images, j'étais préparé, quoi. C'est-à-dire, donc, le jour où je recevais les images, j'étais déjà entraîné et chaud. Mais ça m'est arrivé, effectivement, comme par exemple sur James Bond, quand ils m'ont appelé, le film était terminé. Et du coup, ils avaient déjà leur date de mix, leur date de sortie, etc. Et donc, j'avais un temps très limité pour faire ça. Et les contrats, enfin, les enjeux financiers sur des gros films comme ça sont tellement énormes qu'en plus, on ne peut pas se permettre d'être en retard. Hein. C'est no way.
Quoi. Oui, ils ne comprendront pas.
Voilà. Donc, oui, il y a toujours cette pression, effectivement, qui est un peu pénible. Ouais. Luc m'a d'ailleurs fait le coup très récemment, puisque son dernier film, Anna, dont j'ai fait la musique, je ne sais pas pour quelle raison, Luc m'a appelé pour me demander si je voulais bien faire la musique. Je lui ai dit oui, et il me dit, bon, alors par contre, il y a juste un petit problème, il faut que ce soit livré dans 3 semaines. Et donc, heureusement, bon, les 3 semaines se sont finalement transformées en 1 mois et demi, mais ce qui est quand même très court. Pour moi, en tout cas, moi, j'aime pas 1 mois et demi, c'est trop court.
Ça doit vous mettre une pression terrible quand vous allez vous coucher, etc., en disant, mais qu'est-ce que je vais faire ?
Ouais, là, c'est terrible. C'est-à-dire que là, en général, dans les périodes comme ça, en fait, je travaille 7 jours sur 7, mais je travaille même 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand je dors, ça continue à travailler. parfois je dors avec un problème dans la tête et je me réveille, il est résolu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Du coup, c'est mine de rien, on le sent passer à la fin de la période en question. Hein.
Oui.
Soudain, on tombe à la fin.
Alors, ce qui a fait la force de la musique du Grand Bleu, c'est qu'il y a plusieurs thèmes très différents. Et il y a aussi des orchestrations qui sont radicalement différentes. On a retrouvé des titres dans les habillages, même parfois de spectacles. Alors ça, c'était très éloigné de spectacles d'humour. Et puis, il y a ce thème, celui du début. Comment est-ce que vous avez trouvé ces sons? Parce qu'en plus de la musique, ce qui a fasciné, c'est le son.
Ouais. Bah, le son, alors, je ne sais pas si vous voulez parler des sons de baleine.
Oui.
Le son de baleine, en fait, moi je voulais quelque chose qui suggère les dauphins. Or, les sons de dauphins ne sont pas forcément les plus mélodieux. Par contre, les sons de baleine sont magnifiques. Les chants de baleine, c'est très beau. Et du coup, je me suis inspiré de ça. C'est-à-dire que c'est purement synthétique, hein, ce que j'ai fait. Et ça ne cherchait pas d'ailleurs à être réaliste. Simplement, c'était inspiré des chants de baleine. Et ça a fait la blague, c'est-à-dire que dans la tête des gens, ça exprime les dauphins, même si pourtant c'est pas du tout des sons de dauphins. Et donc voilà, oui, ça me faisait, voilà, j'avais envie de faire chanter les animaux marins.
Et puis il y a tout ce son derrière.
Alors après le son global,
c'est de la musique, c'est des musiciens. On a tendance à dire c'est rat, c'est de l'électro, mais non, il y a des musiciens, il y a de la basse, il y a de la batterie, il y a.
Alors. Oui, dans la plupart des morceaux du Grand Bleu, non, les batteries, c'est des fausses batteries, hein, c'est des boîtes à rythme que je programmais. Oui. Les basses, c'est effectivement moi qui les joue, les guitares aussi, les claviers aussi.
Un petit peu de sax.
Donc oui, alors le sax, ça, c'est pas moi qui joue, oui. C'est un vrai saxophoniste. Mais donc oui, il y a quand même des musiciens. C'est à la fois l'ancêtre de l'électro, mais avec des musiciens. Enfin, ceci dit, l'électro aussi, souvent, il y a des guitares ou des... Il peut arriver qu'il y ait des gens qui jouent quand même. Hein.
Heureusement d'ailleurs.
Et le son, la qualité de son, bah ça venait de ma culture musicale. C'est-à-dire que moi j'écoute toujours d'ailleurs, j'écoutais les grands groupes pop et jazz rock à cette époque-là. Donc j'écoutais les choses les mieux produites de la planète. C'était ça ma culture. Du coup, bah, forcément, dans ce que je faisais, ça s'entendait. C'est-à-dire que j'avais envie aussi que ça sonne aussi bien. Donc on passait beaucoup de temps à travailler les sons, etc. Et effectivement, peut-être qu'à l'époque, on n'était pas encore beaucoup à se préoccuper à ce point-là de la qualité du son. Et du coup, ça a fait la différence. Ouais, c'est que le Grand Bleu avait la réputation, ouais, de sonner particulièrement bien. Ouais.
Et on va assister tout ça en live avec vous, donc le 31 mars 2020 au Palais 12. On est très, très impatients aussi. Et on donne rendez-vous à tous les amateurs d'émotion et de beauté, et pas uniquement au film 1973, n'est-ce pas? Merci Eric Serra.
Merci. No more wind.
That I'll never reach.